Comme chaque mercredi sur Radion à 21h, voici votre magazine littéraire. Très heureux de vous retrouver pour ce 74e numéro de Wagon Livre avec bien évidemment un nouvel invité. C'est une femme qui est en notre compagnie ce soir. Elle est née en 1939. Actuellement, elle est à la retraite, ancienne institutrice en Côte d'Or. Elle coule des jours heureux dans son village de Cessé-sur-Tille où elle nous accueille, village dont elle a été maire durant plus de 20 ans. Elle a été engagée de manière très 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 active en politique au Parti Socialiste. Elle a été conseillère régionale, députée européenne et c'est aussi avec la créatrice des éditions Mutine que nous allons ce soir ouvrir la boîte des souvenirs. Marie-Thérèse Mutin, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous. Je suis très heureux, je vous l'ai dit, je crois, de vous avoir enfin devant notre micro. Nous allons ensemble, si vous le voulez bien, mais je sais que vous en êtes d'accord, nous allons vivre une promenade mutine devant le micro et partir en votre compagnie à la recherche des souvenirs que vous avez d'ailleurs racontés dans votre livre.
Oui, mon dernier livre.
Paru aux éditions Mutine et qui a pour titre « Entre chiens et loups ». Vous avez, je tiens à le dire, publié de très nombreux livres, notamment une biographie de Jean Poprenne que nos auditrices et auditeurs, je pense, se souviendront puisqu'il a été le premier secrétaire du Parti Socialiste à une époque.
Non, il était le numéro 2 du Parti Socialiste. Il a été ministre des Relations avec le Parlement et un ministre très très apprécié dans une situation assez délicate parce que la majorité n'était pas complètement socialiste, donc il fallait composer avec le centre, avec les communistes. Et Jean Poprenne a été un grand ministre des Relations avec le Parlement.
Merci pour ce rectificatif. Alors, de nombreux livres parus aux éditions Alei. Chez Nicta, une nouvelle policière qui a pour titre « Meurtre au palais des Ducs », deux romans que l'on trouve toujours aux éditions de l'Armançon, dont je donne les titres. D'abord « Et la source est tarie où buvaient les troupeaux oui. » et l'autre « J'ai plié le genou sans jamais courber l'âme ». Alors, évidemment, on va avoir l'occasion de parler un peu de votre jeunesse, de votre parcours d'élu, de femme engagée en politique, de féministe aussi. Et non, pas féministe.
C'est-à-dire que je n'ai jamais été considérée féministe par les féministes, parce que j'ai du féminisme une vision un peu particulière, qui s'apparenterait plus à celle de, par exemple, d'Elisabeth Badinter. Je suis contre la parité, j'ai été contre les quotas, donc vous voyez, je ne suis pas la féministe ordinaire.
Bien. En revanche, ce qui est formidable ce soir, Marie-Thérèse Mutin, c'est que vous allez pouvoir nous parler un petit peu de notre nouveau Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, que vous avez côtoyé et connu.
Ah oui, j'ai bien connu Jean-Marc Ayrault, puisqu'il était le numéro 2 du courant Poprenne jusqu'en 90. Donc, je le connais bien. Mais comme tous les élus, comme tous les gens qui ont de l'ambition au sein du Parti Socialiste, on ne reste pas chez Jean Poprenne parce que Jean Poprenne était un homme qui s'intéressait plus aux idées qu'aux places à chercher pour ses fidèles. Et donc, quand un des élus avait un peu d'ambition, il quittait le courant Poprenne pour aller dans un courant plus porteur, pour les places.
Alors, voilà. On reviendra sur la politique, oui. Mais on va revenir à la petite Marie-Thérèse, l'enfant Marie-Thérèse, car vous racontez dans Entre chiens et loups, vous parlez de votre famille, plus de votre mère que de votre père. Les souvenirs du père, semble-t-il, restent douloureux.
Oui, ça reste douloureux parce que d'abord j'ai connu mon père qu'à 6 ans, puisqu'il était prisonnier pendant toute la guerre, donc beaucoup d'enfants de cette époque. Et donc, je n'avais de lui que l'image que ma mère en avait donnée, et qui était l'image de, quand le père allait revenir, tout allait être formidable. Et puis, ça ne s'est pas révélé tout à fait comme ça.
Mais ce père, donc, était prisonnier à Djibouti, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Un père, vous ne vous racontez tout de même pas beaucoup, Marie-Thérèse.
Non.
Il est de pudeur. Oui, et vous le dites d'ailleurs, je vous cite, « Nous ne sommes pas des bavards dans la famille. » Et justement... Oui. Vous l'êtes bavarde, oui. Bien sûr, une femme sympathique.
Oui, mais on ne se confie pas énormément sur ce qu'on a vécu. Non.
Mais un père qui buvait.
Mon père buvait. Mon père a été démobilisé en 1943. L'armée, c'était sa vie. Maintenant, avec le recul, je peux comprendre. Hein, il a été et il est revenu donc de 6 ans de Djibouti, d'emprisonnement à Djibouti, et bon, démobilisé, il a été vraiment perdu, quoi. Et donc, il a bu, et un homme qui boit, ben, c'est quelque chose de très, très, très désagréable pour la famille, quoi.
Images et souvenirs en demi-teinte, j'allais dire plutôt même négatifs à l'égard du père. En revanche, vous célébrez votre mère avec affection et respect.
Ah oui, j'ai beaucoup de respect pour cette femme, oui, dont je ne sais pratiquement rien, puisqu'elle elle ne parlait pas beaucoup de sa vie, et elle n'a pas dû avoir une vie très très facile, quoi. D'abord, pendant la guerre, elle était seule avec ses 4 enfants, hein, donc elle a eu des difficultés, et puis quand le père est revenu, bien, elle a été obligée de subir cet homme désœuvré un moment, parce qu'il a retrouvé du travail après, mais désœuvré un moment et buvant beaucoup, quoi. Ça n'a pas été simple pour elle.
Alors j'ai eu souvent des sourires parce que vous avez reçu une éducation religieuse, vous qui par la suite êtes devenue, j'allais dire, presque une championne de la laïcité à travers ce métier d'institutrice, carrière d'institutrice que vous avez embrassée avec une conviction et un sens du devoir exemplaire.
Ah, je ne sais pas si c'est exemplaire, j'espère que oui, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce métier et j'ai été formée dans les dernières années des écoles normales, où on était formée au métier, ce qui n'est plus le cas maintenant malheureusement, et à la laïcité aussi, à la façon de concevoir le métier et avoir un grand amour pour ce métier-là.
Et quel est votre rapport avec le religieux ?
Alors, avec le religieux, moi je suis d'une famille extrêmement catholique. J'ai un cousin germain ici qui est prêtre, qui s'appelle Raoul Mutin, que pas mal de gens connaissent. Donc je suis dans une famille très 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 catholique.
Hein. Une famille de droite plutôt, conservatrice ?
On n'a jamais parlé politique. Oui. Je suppose quand même que mon père devait voter à droite, je pense. Ma mère, à la fin de sa vie, votait socialiste, parce que j'ai quand même une certaine force de conviction. Mais mes frères ont toujours été... mes frères étaient ouvriers et étaient bien au fait de la lutte de classe et ont toujours voté à gauche.
Alors, quelle a été votre éducation politique ? Comment en arrivez-vous à rejoindre les idées... de la gauche sociale, vous êtes du côté du petit, des gagnes.
Oui, voilà, d'abord parce que mes frères sont ouvriers et me rapportent à la maison ce qu'ils vivent dans leurs entreprises, donc je suis bien au fait de ce qu'est la lutte de classe à l'époque, parce qu'on osait ce mot-là, à cette époque-là. Et puis, je me suis intéressée à la politique, je le dis d'ailleurs dans une petite anecdote sur le livre « Entre chiens et loups », en 65, au moment de l'élection présidentielle. J'avais donc le droit de vote depuis pas très longtemps, puisqu'à ce moment-là, la majorité était à 21 ans.
Mais vous aviez 26 ans.
Voilà, j'avais 26 ans, donc c'était la première le deux ou troisième vote que je faisais. Et puis, bon, je me dis, il faut que je vote, mais il faudrait quand même que je m'intéresse, que je vote pour savoir pour qui je vote, quoi. Et donc, j'ai écouté les émissions, et à un moment donné, il y avait De Gaulle qui parlait, puis je dis, oh ben tiens, il dit des choses intéressantes, et j'ai mon frère ouvrier qui est là, et qui se met dans une colère, alors qu'on n'a jamais parlé politique avec lui, qui me dit, parce que tu crois qu'il va faire quelque chose pour les ouvriers, ton De Gaulle? Alors, j'ai pas su quoi répondre, puis je me suis dit, bon ben, il faut que je m'intéresse plus à fond, et Je suis sûre que mon frère ne s'est pas rendu compte de la portée de sa phrase sur l'orientation de ma vie, quoi, finalement. Du coup, je me suis passionnée pour cette élection. Je me suis passionnée pour les discours de François Mitterrand. Et puis après, ben, de fil en aiguille, j'ai continué. Alors, il y a eu mai 68, hein, avec ce grand défouloir, hein, de l'expression. Et puis, j'ai continué à militer. Donc, je suis allée d'abord à la Convention des institutions républicaines, qui était le tout petit parti de François Mitterrand, puis ensuite l'entrée au Parti socialiste.
On va marquer une pause. Alors là aussi, encore un élément passionnel de la vie de Marie-Thérèse Mutin, puisque nous allons écouter un titre qui a pour titre 15 août 1970, interprété par Catherine Ribeiro. Alors Catherine Ribeiro, une chanteuse que vous affectionnez particulièrement.
Oui, une grande amie maintenant, hein, et quelqu'un que j'ai découvert en 84 seulement, et j'ai été passionnée. D'abord, j'ai reçu un choc émotionnel à la voir sur scène à un meeting à Dijon, et puis j'ai eu l'occasion, puisque j'étais responsable à cette époque-là du Parti Socialiste à Dijon, de dîner avec elle après le spectacle, et puis nous sommes restés en relation, et nous sommes toujours en relation.
Donc nous écoutons 15 août 1970, interprété par Catherine Ribeiro, un choix de notre invitée Marie-Thérèse Mutin, qui nous présente son dernier ouvrage paru aux éditions Mutine, Entre chiens et loups. A tout de suite.
Je sens comme une étrange douleur aiguë, subtile, persistante. Je souffre comme une bête malade. Oh maman, ma douceur. J'ai tellement mal dit, tellement mal. Quinze août 1970. Une odeur de craquement brûlé. Il va se passer quelque chose. De mon lit vidé de chaleur, me suis extirpé lentement. Le téléphone sonnait ma faim, mouvement dérisoire, minuscule. J'en suis sûre, nous sommes des milliers. 15 août 1970. Une odeur de craquement brûlé. Il va se passer quelque chose. Thank you. suicide collectif. Combien de temps? Combien de temps? Combien cela va-t-il durer? Si je fais un geste, si je bouge mes semblables, me suivrez-vous?
Radion.
Wagon Livre, ce soir avec Marie-Thérèse Mutin. Marie-Thérèse, vous écrivez au tout début de votre livre, Entre chien et loup, le rapport de force, celui qui mène le monde depuis toujours, que je retrouverai si prégnant en politique. Le rapport de force, vous avez précédemment utilisé l'expression lutte des classes, mais aujourd'hui, la lutte des classes, ça semble s'être bien effrité.
La lutte des classes, elle s'est effritée du côté des ouvriers, pas du côté du patronat. Le patronat continue la lutte des classes, beaucoup aidé dans le dernier quinquennat par Sarkozy, qui a complètement démantibulé le code du travail. Et la misère qu'il y a, c'est justement qu'il n'y a plus d'action collective dans les entreprises. D'abord, il n'y a plus les grandes entreprises qui pouvaient y avoir autrefois, les mineurs, la métallurgie, la sidérurgie et tout ça, où il y avait énormément de monde à l'intérieur et où il fallait imposer un rapport de force. Tous les droits sociaux, la droite crie oui, ils veulent tous leurs droits acquis, mais ils ont été acquis par des luttes. Toutes ces lois-là, en 36, quand le Front populaire arrive au gouvernement, il fait des lois importantes parce qu'il y a des grèves, parce qu'il y a le mouvement populaire qui est là et qui appuie et qui fait le rapport de force favorable au gouvernement pour imposer au patronat ces lois-là. Voilà ce que c'est la lutte des classes. C'est pas avoir un patron puis lui donner deux claques. On peut le saluer tranquillement, mais à l'intérieur de l'entreprise, il y a un rapport de force à établir. Si je prends un autre exemple, par exemple, la loi sur l'égalité professionnelle. Yvette Coudy, en 81 ou 82, l'a fait voter. Maintenant, on en refait voter d'autres. Alors que la loi Roudy est toujours aussi bonne. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas eu à l'intérieur de l'entreprise un mouvement assez fort pour la faire appliquer. Donc le patronat ne l'applique pas, l'égalité professionnelle, il ne l'applique pas. Et comme il n'y a pas de syndicat assez fort pour lui dire « il faut appliquer la loi », eh bien elle n'est pas appliquée. Alors on peut en faire des dizaines, s'il n'y a pas le rapport de force à l'intérieur, ça ne servira à rien. Voilà ce que c'est le rapport de force.
Alors je sais, j'en suis certain que vous n'avez pas voté pour Nicolas Sarkozy au premier tour, petite galéjade, oui. Bien sûr. Pour qui avez-vous voté au premier tour de l'élection présidentielle ?
J'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon, que je connais bien aussi, qui était, comme moi, minoritaire à l'intérieur du parti, avec quelques autres différences, mais qui a réussi, lui, à sortir du Parti socialiste et à faire quelque chose. Et lui, sur le rapport de force, la lutte de classe, il ne mâche pas ses mots. Et ça me plaît bien.
Ce qui surprend tout de même, c'est que des politiques qui ont commencé au Parti Socialiste, je pense à Éric Besson, on l'a retrouvé aux côtés de Nicolas Sarkozy.
Oui, je ne le connais pas du tout celui-là.
D'accord. Et puis Mélenchon, qu'on a connu socialiste, oui. A créé son Front de Gauche, qui est quand même un parti communiste. Oui. Alors, on a des socialistes qui penchent plutôt à droite, des socialistes qui vont vers l'extrême gauche. Est-ce qu'il y a encore des socialistes pur jus?
Ah, c'est une bonne question.
Quelle est l'identité du Parti Socialiste à l'heure
actuelle ? C'est une bonne question, oui. Il y a toujours eu deux lignes de force à l'intérieur du Parti Socialiste qui se sont déclinées en courant plus ou moins fort. La ligne, quand moi j'ai adhéré, il y avait la ligne soutenue par François Mitterrand, qui était la ligne d'union de la gauche, et puis la ligne Rocard, qui était « laissons l'union de la gauche et faisons en sorte que de travailler avec un peu le centre, quoi, si on veut ». Donc il y a toujours cette coupure-là à l'intérieur du Parti socialiste. Mais les partis ont changé à cause de la constitution de la Ve République. Cette élection au suffrage universel du président de la République, contre laquelle je suis complètement, formellement, a changé la nature des partis. Ces partis qui étaient des partis de programmes législatifs, de réflexion sur le projet de société, sont devenus des écuries présidentielles. C'est-à-dire que maintenant, vous avez un courant qui soutient tel candidat. Sur quelle ligne ? On ne sait pas trop. Vous savez, sur les primaires, il n'y avait pas énormément de différence entre les programmes des différents socialistes. Donc,
Arnaud Montebourg, avec la démondialisation.
Arnaud Montebourg était un petit peu sur la gauche du parti. On va voir ce qu'il va faire au gouvernement, ce qui n'est pas simple. On verra bien.
Mais la parité homme-femme dans ce gouvernement héros, pour vous, c'est ridicule.
Ah oui, complètement. Moi, j'ai toujours été opposée à cette parité qui est quand même assez désobligeante pour les femmes. Hein ? Quand on sera obligé de faire la parité pour les hommes parce qu'il y aura trop de femmes, là, ça sera désobligeant pour les hommes. On est bien d'accord.
Et puis bientôt, il faudra aussi mettre un petit peu un indigène de la République, un homosexuel.
J'ai un ami qui me dit, moi, j'ai 50 ans, je suis blanc, je suis cultivateur, je suis catholique. Il dit, je n'ai aucune chance d'être élu maintenant, quoi. Puisqu'il ne sera jamais sur une liste du Parti Socialiste, puisqu'il faut être femme, noire de préférence, handicapée, c'est formidable. Enfin, voyez, donc ça devient complètement ahurissant, quoi.
On revient un petit peu sur le féminisme. À la page 42, vous parlez de Ségolène Royal qui semble vous incommoder. Vous dites qu'elle est passée maîtresse dans l'art insupportable de la victimisation.
Ah oui. J'ai trouvé qu'elle avait fait... Elle a beaucoup mieux réagi à cette campagne-là, hein, si je veux dire. Mais j'ai trouvé qu'elle jouait beaucoup sur le fait d'être femme et d'être attaquée parce que femme. Elle n'était pas attaquée parce que femme, elle était attaquée parce que candidate à la présidentielle. Et on l'a vu d'ailleurs dans le débat avec Sarkozy, elle a tout fait pour que Sarkozy, qui est quand même quelqu'un qui cogne, l'attaque pour justement dire « Ah, vous m'attaquez parce que je suis une femme ». Donc ça s'est senti, et lui, il devait être dopé, parce que pour être calme comme ça, alors ça devait être surprenant.
Il y a une socialiste qui, à mon avis, a été maltraitée. Parce qu'elle était une femme, et notamment parce qu'en 1991, elle devient première femme Premier ministre, c'est Edith Cresson.
Ah oui, ça.
Vous l'avez connue.
Ah oui, je l'ai bien connue, puis je l'ai retrouvée d'ailleurs au Parlement européen, puisqu'elle était commissaire européenne à l'époque. Et, elle a beaucoup souffert de ses propres amis socialistes. Hein. Le seul qui l'ait défendu, c'est Jean Poprenne, justement. Hein. Jean Poprenne, lui, alors, par contre, contrairement à tous les socialistes que je connais, Jean Poprenne n'a aucun problème. Je n'ai jamais ressenti avec Jean Poprenne le fait que j'étais femme en politique. J'ai toujours été considérée comme les militants, ce qui n'est pas le cas pour tous les hommes politiques. Hein. Alors, loin de là.
Votre parcours au Parti Socialiste, on sent que ça a été le moteur de votre vie, que vous y avez éprouvé des joies extrêmes, oui. Mais aussi, finalement, beaucoup de déceptions, des haines intestines. Des incompréhensions, des trahisons peut-être, des divisions.
Oui, des haines, je dirais pas ça. Bon, c'est.
Vous avez été quand même exclu.
J'ai été exclu, dans des conditions que je ne raconterai pas, mais qui sont. Mais en même temps, j'aurais pu être réintégrée, parce qu'on exclut les gens et puis on les réintègre quand ils ont gagné l'élection. Hein, là, comme j'étais au conseil régional. Si j'avais demandé ma réintégration, on m'aurait réintégré. Mais je n'avais pas du tout envie de rentrer dans ce parti, parce qu'il était plus que ce que j'avais connu et apprécié avant.
Que signifie ce militantisme désintéressé dont vous parlez dans votre livre? Vous parlez d'un militantisme enthousiaste et désintéressé.
Oui. Par les militants.
Que veut dire cet adjectif désintéressé.
C'est que j'ai connu, moi, le Parti Socialiste, j'ai connu une aventure extraordinaire de 71 à 81, quand on était dans l'opposition et qu'on a monté au pouvoir. Et là, c'était extraordinaire. Et les militants de cette époque-là, c'était des militants qui ne comptaient pas leur temps, qui ne comptaient pas leur argent, qui ne demandaient pas à être indemnisés pour avoir acheté de la colle, usé de l'essence, qui allaient aux réunions sans rien demander. Et puis après 81, il y a eu tout un tas de militants qui n'étaient plus les mêmes. C'est-à-dire beaucoup de... Enfin, pas tous. Hein. Moi, je vous parle de ceux qui ont voulu être responsables, hein. Entendons-nous bien, hein, parce qu'il reste toujours des militants désintéressés à l'intérieur du Parti Socialiste, comme dans tous les partis d'ailleurs, même dans les partis de droite, hein, ça existe aussi. Mais on a vu arriver des militants qui n'étaient plus du tout sur les mêmes bases que nous, c'est-à-dire, si je vais à une réunion à Paris, il faut m'indemniser le trajet, ce que moi j'avais jamais demandé. Hein.
Le Parti Socialiste était riche.
À l'époque, oui, après 81.
Peut-être.
Après 80, oui. Oui, mais c'est pas une raison, quoi. Enfin, bon, en même temps, bon, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'après tout, c'est vrai. Mais il n'empêche quand même, quoi. Moi, j'ai eu des réactions de militants que je ne comprenais pas, hein, qui venaient me dire, ah ben moi, je veux aller dans telle section parce que là, je pourrais être tête de liste pour les municipales. Vous voyez, des plans de carrière dans la tête. Je n'avais jamais vu ça avant 81, moi. Enfin, jamais vu. Certainement, il y en avait. Mais moins que là. Parce que là, le moindre jeune qui adhérait, là, celui dont je parle, il avait 25 ans, il vient, je vais adhérer à Talent parce que là, il n'y a pas de tête de liste. Et alors, dans 2 ans, c'est les municipales, je vais tête de liste à Talent.
Alors, on va...
Moi, je suis d'une autre planète. Hein. Là, c'est... Alors,
Nous allons, nous aussi, nous tourner vers une autre planète, oui. Musicale et chanson, parce oui. que Marie-Thérèse Mutin, ce n'est pas qu'une politique, c'est aussi une militante culturelle.
Ah oui.
Une militante de la défense, liberté de l'art. Toujours un choix musical de notre invité. Nous écoutons à nouveau, avec plaisir et redécouverte, Catherine Ribeiro, et le titre, c'est « Jour de fête ».
Derrière chaque fenêtre luisait guirlandes, bougies et boules de gomme. Ce soir-là, chacun se devait de s'éclater au tiroir-caisse des magasins. Pochette surprise, jour du formidable gâchis. Paris scintillait de lumière, mais tout mon être était absent. J'avais croisé un satellite bien mal placé sur mon orbite. Qu'est-ce que je foutais sur les trottoirs, dans les boutiques endimanchées, à chercher l'objet pseudo-rare, à chercher le dernier cadeau. Champagne n'avait aucun goût, je veillais pour être debout. Le temps passait à fondre l'âme et les carreaux. Il n'y a rien de plus dérisoire qu'un corps chaud dans un lit désert.
Jour de fête à l'instant de Catherine Ribeiro sur les ondes de votre radio locale. Nous retrouvons devant notre micro la tonique militante Marie-Thérèse Mutin qui est notre invitée ce soir et qui évoque ses souvenirs, très nombreux d'ailleurs, dans son dernier ouvrage paru aux éditions Mutine, Mutine sans S, et qui a pour titre « Entre chien et loup ». J'aimerais qu'on revienne sur François Mitterrand. Vous racontez un épisode très amusant qui tourne autour du réchauffage d'une quiche.
Oui, exactement.
Alors, vous êtes avec François Mitterrand, qui n'est pas président de la République.
Non, il est premier secrétaire. Oui.
Il est premier secrétaire du Parti Socialiste. Il est accompagné, et vous êtes à table avec lui, Pierre Joxe, et puis Edith Cresson.
Oui, quelques autres, mais moins importants.
Et je vous laisse raconter.
Alors, oui, c'est avant l'entrée en commission des résolutions du congrès de Metz en 1979. La commission des résolutions au Parti Socialiste, c'est celle qui va essayer de trouver un accord entre les différents textes et qui se réunit la nuit. Donc on était... Là, j'étais dans cette commission des résolutions pour le quota féminin, hein, parce que il y avait très peu de là, j'étais la première secrétaire d'une fédération, hein, bon, et j'étais au comité directeur, on était très peu nombreuses à l'époque, donc on m'avait mis dans la commission des résolutions de ce fameux congrès, et donc on mangeait un peu avant d'entrer en réunion. Et on était en train de manger, Mitterrand arrive en retard, comme il était très souvent, et il s'installe à la table à côté de Joxe, et puis au bout d'un moment, Joxe lui dit « mais vous n'avez rien, vous ne mangez pas ?» Il dit « si, j'ai demandé une quiche, mais j'ai demandé qu'on me la chauffe. » Donc, alors on continue à discuter, là, bâton rompu, et puis au bout d'un moment, il dit « ah, ben c'est bien long à chauffer cette quiche, Marie-Thérèse, vous ne voulez pas aller voir ?» Et moi, alors... il y a toujours eu de la provocation de la part de Mitterrand à mon endroit, parce qu'on s'est toujours un peu frité. Et je dis, mais pourquoi moi? Pourquoi pas Joxe? Alors, Mitterrand, ça l'a fait sourire, quoi. La tête de Joxe, je ne l'ai pas décrite hein, dans le livre, mais bon. Et puis, il se retourne vers Edith Cresson et lui dit, Edith, vous voulez y aller? Et Edith se lève et elle y va. Ah, ben voilà. Alors, j'étais en colère contre Edith. Et Mitterrand ajoute, il y a qu'Edith qui Vétroudy ne m'a pas pourri. Vétroudy étant secrétaire aux droits de la femme à l'époque, ministre, non, secrétaire aux droits de la femme à l'intérieur du PS. Voilà.
Marie-Thérèse Mutin, l'expérience socialiste, François Mitterrand, est-ce qu'on peut vous demander un point de vue, un souvenir sur François Mitterrand?
François Mitterrand, c'est l'homme qui m'a complètement fasciné intellectuellement. Et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. quelqu'un d'extraordinaire. Alors, je sais bien que tout un tas de choses ont couru sur son compte, mais pour moi, il est celui qui a réuni la gauche. Et ça, c'est pas une mince affaire, et qui nous a permis de vivre cette épopée dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est un grand, grand souvenir, et je lui en suis très reconnaissante.
On va, sur cet éloge, on va à nouveau marquer une pause musicale avec une chanteuse, là aussi, coup de cœur, Frédérique Carminati, qui nous interprète « Fer et feu ». Un petit mot sur cette chanteuse.
Oui, Frédérique Carminati est une adhérente des éditions Mutines, hein, comme le chanteur qu'on entendra après, et qui nous a beaucoup aidés au moment des 24 heures des éditions Mutines, cette espèce de pari fou que nous avons aidé, qui est une chanteuse de jazz, de gauche, bien entendu. Et, je dis bien entendu, oui. je pourrais connaître quelqu'un de droite, mais enfin bon, j'en connais peu. Et qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie personnelle et du coup dans sa vie d'artiste, et qui revient un peu à la surface là avec un nouveau spectacle qu'elle produit. Mais le titre qu'on va écouter n'est pas tiré de son nouveau spectacle, il est tiré d'un disque qui s'appelle « Chez Fernand ». Et c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que les paroles sont très belles. Je demande aux auditeurs de bien écouter les paroles. Et puis, elle est un peu mélancolique. Et moi, j'aime mieux ça que... Moi, je suis quelqu'un de triste, finalement, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc voilà, j'ai choisi ce titre-là pour cela, de Frédérique Carminati.
Plongeons-nous donc dans les paroles de Fer et Feu de Frédérique Carminati, un choix de notre invitée Marie-Thérèse Mutin qu'on retrouve d'ici quelques minutes.
Fer et feu, je me consume. Feu et fer contre l'enclume. Cher et sang, je me bats. Sang de ta chair contre l'enfer. Sang de mon sang qui m'est si cher. Corps meurtri qui nous pleure, saignant du corps au cœur. Chant de mon sang, je donne ma voix. Prends-la, le son de ma voix pour toi se fange des mois pour dire les mots. Que sont les mots? Ton corps se glace, le feu te lasse. Ma voix contre le temps. Je donne ma voix, prends-la, le son de ma voix. baisse le feu de l'as. Ma voix contre le temps, contre le temps de rien.
De la Bourgogne.
Marie-Thérèse Mutin, nous sommes avec vous ce soir pour encore quelques minutes à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. On revient un petit peu sur la jeunesse, parce que vous étiez une petite fille lorsque les chars américains traversent, les libérateurs traversent le village, jetant comme ça, triomphant, des chewing-gums. Et finalement, votre rencontre avec l'Amérique, c'est un chewing-gum.
Voilà, c'est ça, oui. Oui, j'avais 5 ans. Oui, à peine 5 ans, et je me souviens très bien, parce qu'on attendait les chars, on savait qu'ils allaient arriver, hein, ils arrivaient de Genlis pour regagner Dijon. Et donc, on était très, très excités. Je me souviens très bien de ce jour-là. On était restés sur la place du village, parce que je n'habitais pas cette maison, j'habitais sur la place du village. On était restés sur la place du village avec l'ensemble des gens. Et puis, à midi, on était quand même rentrés pour manger. Alors, maman nous avait fait un œuf sur le plat rapidement. Et puis, évidemment, les chars sont arrivés quand on était à table, quoi. Donc, on est sortis. Et là, il y a eu les chars, j'ai vu ma sœur qui avait 10 ans de plus que moi, donc qui avait 15 ans, qui embrassait les soldats américains sur les chars et tout. Et nous, les petits, on suivait. Et les Américains nous lançaient du chocolat, des chewing-gums. Et donc, c'est là que j'ai découvert le chewing-gum.
Et l'American way of life.
Voilà.
Je plaisante. En revanche, s'il y a des souvenirs heureux liés à la libération, vous êtes sollicité par vos neveux pour raconter en 43. Là, vous êtes une fillette de 3 ans et demi, 4 ans. Mais le souvenir est marquant, puisque vous vous souvenez de soldats allemands, l'arme pointée sur vous et votre mère.
Oui, il y avait à Cessé-sur-Tille un maquis qui a été démantelé le 6 septembre 43. Et donc, les Allemands qui occupaient, hein, on était occupés par les Allemands étaient ici, dans le village. Et les jeunes se sont sauvés, ils ont essayé de fuir. Et du coup, les Allemands les cherchaient dans les maisons. Et donc, ils ont perquisitionné toutes les maisons. Donc, ils sont arrivés, bottés, casqués, mitraillettes au poing. Et ça, c'est très impressionnant pour une petite fille, parce que je sentais la peur de ma mère, l'angoisse de ma mère, et puis ces soldats qui avaient envahi, là, qui faisaient un bruit épouvantable. Et mes petits-neveux me demandent de raconter, parce que le jeune Allemand qui nous tenait en joue, ma mère et moi, pendant que les autres montaient dans les étages, me voyant hurler, me disait « Pas peur, petite, pas peur, petite ». Alors ça amuse les enfants, « Pas peur, petite », ils trouvent ça bizarre. Mais en même temps, avec le recul, je me dis que cet homme-là, il était soldat de l'armée allemande parce qu'il était allemand, qu'il avait peut-être des enfants chez lui aussi, et qu'il était vraiment triste de faire ce qu'il faisait à l'époque. Quoi. Voilà, et là, je finis par la formule de Prévert, « Quelle connerie, la guerre !» Voilà.
Le fameux poème Barbara, voilà. Chanté par un très grand nombre d'interprètes. Vous parlez beaucoup de la famille, vous parlez de votre mère. Vous avez une sorte de souffrance de ne pas avoir de descendance.
Oui, c'est vrai.
Ça,
c'est
vous
vrai.
L'écrivez, oui, oui. Sobrement, pudiquement aussi.
Oui, oui, oui.
Mais votre énergie, vous avez enfanté d'autres choses.
Oui, oui, c'est sûr. Je peux considérer que mes livres sont mes enfants. Je considère mes neveux et nièces un petit peu comme à moi, ce dont je remercie mes frères et sœurs.
Vos auteurs des éditions Mutines.
Mes auteurs des éditions Mutines, oui, 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 bien
vous
sûr.
Vous les
oui.
adoptez un peu.
Bien sûr, oui, 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 oui. Là, ce qu'il y a, c'est que les éditions Mutines, c'est une association de loi 1901 et que les auteurs adhèrent. Il ne faut pas être adhérent pour être, il ne faut pas obligatoirement être adhérent pour être auteur, mais la plupart adhèrent et beaucoup deviennent mes amis. Et ça, c'est une amitié que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est vraiment d'une autre qualité que les amitiés politiques que j'ai pu avoir.
Il y a déjà le titre « Entre chien et loup ». Nous nous connaissons un petit peu, nous nous rencontrons dans des salons du livre ou Sofitel La Cloche lors des réunions littéraires du Club des écrivains de Bourgogne. Je connais la Marie-Thérèse souriante, je connais une Marie-Thérèse parfois tourmentée, angoissée. Et entre chien et loup, justement, Marie-Thérèse, c'est une femme dont on ne sait pas trop si elle est heureuse, elle a eu des moments de bonheur. Est-elle encore aujourd'hui retirée à la fois de cette profession passionnante d'institutrice, retirée des combats politiques, est-elle heureuse dans sa retraite sage? Et pourtant, votre livre se termine sur une phrase exclamative, « Je suis une citelle heureuse », jolie métaphore empruntée au monde animal que vous respectez tant.
Oui, oui, oui. Et reprise d'une phrase de Camus qui disait « Il faut considérer Sisyphe heureux hein, », parce qu'il remonte sans arrêt son rocher. Et moi, je me considère à la citelle, parce que la citelle, elle remonte sa noisette qu'elle replante dans le tilleul, et qu'elle va rechercher inlassablement. Et donc, moi, je ne suis pas Sisyphe, parce que j'ai moins d'ambition maintenant que je n'en avais quand j'étais jeune. Donc, je ne suis qu'une citelle heureuse. Voilà.
C'est une très belle
oui,
image.
Mais parce que vous savez, quand on vieillit, on a une sagesse qui s'installe et on se dit il faut privilégier les petits bonheurs. Et moi, ma citelle, c'est un petit bonheur. Les oiseaux qui viennent manger sur le banc, c'est un petit bonheur. Et ça, j'apprécie. Quoi. Voilà, les moments heureux.
Vous devenez une
grande contemplative. Le fait de vous rencontrer, c'est un petit bonheur. Voilà.
Hein. Un petit bonheur.
C'est pas gentil, ça.
Merci, j'apprécie, Marie-Thérèse. On va offrir une nouvelle pause musicale à nos auditrices et auditeurs. C'est toujours un choix de notre invitée, Marie-Thérèse Mutin, qui évoque avec nous sa jeunesse, son enfance, son parcours politique, ses déceptions, ses espoirs aussi, à travers son dernier opus aux éditions Mutines, Entre chien et loup. Et là, Marie-Thérèse, on écoute un chanteur. Alors, vous allez nous le présenter, c'est
Alors,
Alan Ryan.
Alan Ryan, c'est le chanteur. C'est un ami de ma nièce qui travaille avec moi et qui nous a beaucoup aidés pour faire nos 24 heures des éditions Mutines. Parce que lui, il a une association de créateurs et il a mis tous ses créateurs à notre disposition et on a pu ainsi remplir 24 heures, on aurait même pu faire plus, de lecture, d'interprétation, de chant. Et ce chanteur, il est dans mon livre, il en est très heureux d'ailleurs, Entre chien et loup, parce que j'ai une petite... anecdote qui est par rapport à un de ses concerts que j'étais allée voir et qui est un petit peu grivoise, un petit peu érotique. Un petit peu érotique, oui. Voilà, donc et il chante La Fée Clochette, là, que vous allez écouter. Et justement, c'est cette chanson que je cite dans le livre, puisqu'il dit à un moment donné, pour 300 balles, je te fais l'amour. Et donc, dans la salle, il y a eu un cri qui « Oh oui !» au moment où il disait ça. Et alors, bon, Ça m'a donné l'idée d'écrire le texte que vous avez vu.
Nous écoutons donc La Fée Clochette, voilà, d'Alan Ryan, un choix de notre invitée, Marie-Thérèse Mutin.
La Fée Clochette se fait un shoot et dans ses yeux des étincelles. J'ai juste un sac, une paire de boots, et dans mon dos de grandes ailes, de grandes ailes de libellule pour voler au firmament. Maman, je te vois dans la foule et ton visage étincelant. C'est le petit air de la junkie, la petite chanson à 2 grammes par jour. Je fais la pute, je m'appelle Candy, pour 300 balles, je te fais l'amour. C'est le de la junkie, la petite chanson à 2 grammes par jour. Je fais la pute, je m'appelle Candy, pour 300 balles, je te fais l'amour. Je suis la fée clochette d'un soir, dormant les talons, et dans la nuit et dans le noir brille une étoile sous les cartons. Que tout est froid, que tout est gris, mon sang m'a je n'ai plus d'âme et plus d'amis. Je dors contre moi, tout enlacé. C'est le petit air de la junkie, la petite chanson à 2 grammes par jour. Je fais la pute, je m'appelle Candy, pour 300 balles, je te fais l'amour. C'est le petit air de la junkie, la petite chanson à 2 grammes par jour. Je fais la pute, je m'appelle Candy, pour 300 balles, je te fais l'amour. C'est le petit air de la junkie, la petite chanson à 2 grammes par jour. Je fais la pute, je m'appelle Candy, pour 300 balles, je te fais l'amour. C'est le petit air de la junkie, la petite chanson à 2 grammes par jour. Je fais la pute, je m'appelle Candy, pour 300 balles, je te fais l'amour.
La suite de Wagon Livre ce soir sur votre radio locale en compagnie de Marie-Thérèse Mutin. On a avec elle, vous l'avez bien compris, parcouru son enfance, sa jeunesse, son parcours de militante au Parti Socialiste. On va maintenant évoquer aussi un des aspects fondamentaux de l'existence de Marie-Thérèse Mutin, c'est son métier d'institutrice. Et je vais donc vous demander, Marie-Thérèse, de lire dans son intégralité un chapitre extrêmement court qui s'intitule « Le temps suspendu » et vous ressusciter une classe figée dans le décor des années 50, c'est-à-dire la classe d'une école communale telle que vous l'avez connue dans votre jeunesse.
Pendant toutes mes années de militantisme dans les 707 communes de Côte d'Or, j'ai traversé des villages aux noms chargés de mystères qu'on se promet d'élucider plus tard, quand on aura le temps. Vilaine les prévôtes, Bure les Templiers, Baigneux les Juifs, Champs d'Oiseaux. Parfois, dans la routine de ces brèves étapes de mairie en mairie, un cadeau, une émotion forte. comme c'est arrivé à Champagny par un petit matin de février 86, glacial et enneigé. Champagny, une commune de 22 habitants. Le maire, car il y a un maire et un conseil municipal, nous reçoit dans une salle de classe désaffectée qui fait à présent office de mairie. Une école fermée depuis le début des années 50. Un rêve, le temps suspendu. Rien n'a bougé depuis la dernière heure de classe du 13 juillet 1954. Le bureau sur l'estrade surélevée de deux ou trois marches qui domine trois immenses tables communes avec encriers de porcelaine et ardoises encastrées à chaque place. Au mur, les cartes de géographie rossignolent, jaunies par le temps. Sur des rayonnages au fond, des livres couverts de papier bleu. Quelques craies dans la rainure du tableau noir qui couvre tout le mur derrière le bureau. Au centre, l'énorme poêle en fonte gris, clair et ses tuyaux qui courent au plafond. Et comme la vieille institutrice que je suis s'extasie sur ce décor suranné et sur le poêle Gaudin qui m'évoque tant de souvenirs de petite enfance lorsque, à tour de rôle, chaque matin, nous devions procéder au nettoyage et à l'allumage de cet engin, le maire de Nancy à ces deux pauvres socialistes frigorifiés, recroquevillés dans leurs vêtements humides, les pieds gelés par la neige encore accrochés aux chaussures. Et quand ils marchent, ils chauffent sacrément.
Marie-Thérèse Mutin, vous commencez votre métier d'institutrice très précisément à la rentrée scolaire de 1960, le 1er octobre. Et là, vous l'écrivez, vous vous sentez profondément investie d'une mission et vous êtes très attachée à l'éducation, à la citoyenneté et très attachée aussi, en tant que femme de gauche, à la laïcité.
Oui, à cette époque-là, je n'étais même pas encore une femme de gauche. Je ne m'occupais pas de politique. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à l'école normale, nous avions été formés au respect du métier, au respect des élèves, par la directrice de l'école normale d'institutrice de Dijon, qui venait dans la quatrième année, qui est l'année de la formation professionnelle, nous enseigner ce qu'il fallait penser du métier et ce qu'il fallait faire. Et alors c'était une femme très, très respectée, très respectable et très, très, très impressionnante, qui nous disait, alors je vais citer une phrase que je n'ai pas mise dans ce livre-là, mais que j'ai mis dans un autre. Elle disait, vous allez être nommée dans un petit village, dans le Châtillonnais, parce que c'était là qu'on allait le plus souvent. Mais c'est pas parce que vous êtes seule, rappelez-vous qui vous êtes, et n'allez pas épouser le fils de l'épicier. Ah, je ne sais pas ce que lui avait fait le fils de l'épicier à elle, mais enfin bon, voilà, et c'est vrai que c'était pour dire, vous avez une mission, et c'est pas parce que vous êtes isolé qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut respecter votre métier, quoi.
Une mission et une autorité morale. Vous écrivez dans Entre chien et loup, l'instituteur, là j'interromps la citation, un adulte respecté ayant sur ses élèves une autorité remise en cause par personne. Voilà. Dites donc, Marie-Thérèse Mutin, aujourd'hui ce n'est plus
c'est
tout
plus,
à fait le
c'est
cas.
C'est plus du tout ça. Ça a changé à partir du mouvement de mai 68, parce qu'il n'y a pas eu que des choses impressionnantes. L'autorité a été repoussée en 68. Et on est allé, comme souvent dans ces cas-là, le balancier allait bien trop loin dans la permissivité. Et l'instituteur a perdu cette autorité.
N'est-ce pas un peu la faute de la gauche?
Je pense que c'est l'esprit de 68, mal digéré, si j'ose dire, et Freud, mal digéré, qui a produit ça. Parce que c'était un moment où il fallait surtout pas contrarier les élèves, il fallait laisser les enfants faire ce qu'ils voulaient. Ça ne va pas. C'est pas possible.
Et parce qu'aujourd'hui, quand même, il n'y a que la droite qui dit que le pouvoir au maître et arrêtons de mettre l'enfant au cœur du système.
Oui.
Ne faudrait-il pas remettre les adultes au cœur du système?
Il faudrait déjà donner une formation aux instituteurs. Leur rappeler justement ce qu'est ce métier, qui est un métier extraordinaire, parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous n'avez pas, c'est pas comme un menuisier, hein, c'est pas une planche que vous allez rater, hein, c'est un enfant, c'est un adulte, c'est une vie. Alors, c'est vraiment très, très important, quoi. Et je pense qu'il faudrait revenir. C'est pas des lois, hein, qui vont pouvoir changer ça. C'est la société qui doit reprendre tout ça en charge, parce que c'est toute la permissivité est là, hein. Vous avez maintenant les parents d'élèves qui viennent. Moi, j'ai jamais eu ça, hein. Les parents d'élèves qui viennent, si vous avez puni votre gamin, qui viennent vous contester, dire. Moi, j'ai jamais connu ça. Hein. J'ai jamais connu ça. Mais bon, c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Et puis quand vous avez des tout jeunes gens qu'on envoie dans des classes sans préparation, dans des classes où ils sont des fois plus jeunes que leurs élèves, hein, et bon, ils ne vont pas savoir comment se faire respecter, comment voulez-vous que ça marche ?
Vous écrivez d'ailleurs aussi, mais c'est plus dans la fonction de maire, je vous cite Marie-Thérèse Mutin, « Dans nos villages, le maire, comme l'instituteur et le curé, avait une autorité reconnue et sa parole valait toutes les signatures. 20 ans plus tard, il est menacé des foudres de la justice avant même la moindre explication. C'est la modernité. »
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et voilà. J'étais maire en 1974. Eh bien là, j'ai fait des accords verbaux avec des personnes du village, quoi, en disant, bon, ben, on fait comme ça, d'accord, on fait comme ça, on ne fait pas de papier. Et puis 20 ans plus tard, je me suis retrouvée avec les enfants de cette personne-là qui me disaient « Oui, t'as fait ça, où sont les papiers, comment, je t'ai fait un procès. » Bon, alors c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit « Ça vaut vraiment plus le coup d'être maire dans un village comme le mien, que j'aime beaucoup, hein. Bon, c'est mon village natal, mais s'il faut se battre avec les gens, avec des procédures, avec tout ça, ça vaut plus la peine de s'engager pour ça. »
Entre chien et loup, tel est le titre du dernier ouvrage de notre invitée ce soir, Marie-Thérèse Mutin, ouvrage disponible aux éditions Mutine. On retrouve l'émission très rapidement sous quelques jours sur le site de Radion, et là nous donnerons le lien et l'adresse pour commander l'ouvrage. Et on remercie Marie-Thérèse parce que, comme disait Maurice Thorez, il faut savoir finir une grève. Eh bien, Marie-Thérèse, il faut savoir finir une émission.
Eh oui, hein, je vous remercie.
Merci Marie-Thérèse d'avoir été devant notre micro. Ouais. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission et forcément un nouvel invité. Avant de nous séparer, n'oubliez pas le 9 juin prochain à Saint-Florentin, le premier festival littéraire qui aura lieu de 10h à 19h, un beau salon du livre en plein air. On espère que le beau temps sera de la partie, donc de 10h à 19h à Saint-Florentin, le premier festival littéraire. Pour ma part, je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, mercredi prochain, 13 juin à 21h, toujours sur le 90.5, la fréquence de Radion. Nous recevrons Lionel Girard. Lionel Girard est plasticien, il est également artiste, poète et écrivain. Et nous le recevrons pour présenter un recueil de nouvelles et de récits parus aux éditions Vaillant. Jocelyn et autres destins de Bourguignon. C'est donc Lionel Girard qui sera devant notre micro mercredi prochain. Jocelyn et autres destins de Bourguignon a d'ailleurs reçu en 2010 le prix Festilivre Bourgogne Patrimoine qui avait été remis par Anicom Moneto et les éditions Vaillant en présence de Jacqueline Monsigny et d'Edouard Mix. Rendez-vous donc mercredi prochain en compagnie de Lionel Girard pour son recueil de nouvelles et de récits. Excellente soirée et douce nuit à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Au revoir.